Donc, bonjour à tous. Je vais appeler Benoît Léniel pour une intervention scientifique.
Oui, vous m'entendez? Oui, très bien. Donc, moi, je vais vous parler de changement climatique. Pour commencer, comme vous le savez, les travaux sur le changement climatique sont menés au travers du GIEC. Le GIEC, en réalité, c'est le terme français, mais le terme consacré et anglais, c'est IPCC. Le GIEC, c'est une organisation intergouvernementale autonome qui a été créée en 1988 et elle est composée de scientifiques, mais pas seulement de scientifiques, mais également des représentants des États. Et on a terminé le sixième cycle du GIEC, on entame le septième cycle. Donc quand on termine un cycle, ça veut dire qu'on a terminé tous les rapports. Ici, ils sont indiqués ici. Vous avez donc le sixième rapport du GIEC sur le changement climatique et ses conséquences, qui est composé d'un certain nombre de volumes. Vous voyez, trois volumes et un rapport de synthèse et accompagné de résumés pour décideurs. C'est d'ailleurs les résumés pour décideurs qui sont généralement lus, et notamment le dernier sur le rapport de synthèse, puisque les volumes en eux-mêmes font des milliers de pages et sont parfois assez difficiles à lire. Alors si vous voulez, justement, vous pouvez aller sur le site de l'IPCC et vous retrouverez tous ces éléments et tous ces rapports. Alors que dit ces rapports? Eh bien, on observe, quand on compare la dernière décennie et qu'on la compare avec la période pré-industrielle, on a bien une élévation de température qui est de l'ordre de plus 1,1 degré sur cette planète, et il n'y a aucun doute que c'est lié aux activités humaines et notamment aux émissions de gaz à effet de serre. Ce qu'on constate, c'est que 1,1 degré, c'est une moyenne, mais vous voyez sur cette carte qu'on a certains endroits sur cette planète, où notamment dans la zone, dans les zones haute latitude, où on a des élévations de température qui sont de plus de 2 degrés. Le GIEC aussi se projette, à 2050, 2100, voire 2300. Ici, vous est représenté l'ensemble des scénarios utilisés par le GIEC. Quand on prend l'ensemble de ces scénarios et des modélisations avec les incertitudes, eh bien, à l'horizon 2100, le réchauffement va continuer et on se dirige vers un réchauffement entre plus 1 et plus 6 degrés Celsius. Malheureusement, au vu des émissions de gaz à effet de serre actuelles, vous pouvez oublier les scénarios optimistes en bleu. On est sur une trajectoire, en réalité, de l'ordre de plus, à peu près environ 3 degrés. Et donc, ce qui veut dire que l'objectif de la COP21, qui est de limiter le réchauffement à 1,5 degré, ne peut pas être atteint aujourd'hui au vu des émissions de gaz à effet de serre. Alors, avec une trajectoire à plus de 3 degrés, eh bien, on se situe, vous voyez, entre ces deux représentations cartographiques, entre 2 et 4 degrés, et vous voyez que ça veut dire, pour certaines régions du monde, un réchauffement qui irait à plus de 6 degrés, voire 7 degrés. Les températures sont touchées, mais également les précipitations, et ce qui est important de souligner, surtout au niveau des précipitations, c'est qu'on se dirige dans les projections vers une augmentation du contraste entre les grandes zones climatiques. Vous voyez sur ces cartes, avec un monde à 1,5 degré de réchauffement à 2 et à 4, vous voyez que les contrastes de couleurs augmentent entre le marron et le vert. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les zones méditerranéennes et tropicales sèches, où il y a déjà peu d'eau, il y en aura encore moins, et les zones de haute latitude où on a déjà de l'eau en abondance, il y en aura davantage. Alors bien évidemment, si on a une augmentation du contraste des précipitations, eh bien, on va intensifier les inégalités face à la ressource en eau. Ici, c'est un travail mené très récemment en 2023 sur les nappes d'eau souterraines. Et vous voyez, on retrouve la carte des précipitations, c'est-à-dire que dans l'eau souterraine, qui est une eau utilisée comme eau potable dans beaucoup d'endroits du monde, eh bien, on a certaines zones où il y aura moins d'eau et d'autres où il y en aura davantage. Donc on augmente l'inégalité face à l'eau. Autre élément que l'on constate, qui s'intensifie, que l'on constate de plus en plus chaque année, hein, dans tous les territoires français notamment, mais partout dans le monde, c'est l'intensification des événements extrêmes climatiques. Les événements extrêmes climatiques, c'est les canicules, les sécheresses, les précipitations intenses, et ce qui donne aussi, et les tempêtes qui donnent des inondations, comme on l'a vu dans le nord de la France récemment. Alors le GIEC, pour les vagues de chaleur, indique que déjà, d'ores et déjà, dans 41 régions du monde sur 45, on a une augmentation des vagues de chaleur. Mais ça ne veut pas dire, vous voyez, la carte, il y a beaucoup de régions en rouge et puis quelques régions en gris. Quand vous êtes en gris, ça veut dire qu'il y a, les données ne sont pas suffisantes. On ne peut pas les tester statistiquement, mais vous comprenez bien que quand on est en Afrique, la partie de l'Afrique au centre, où on n'a pas de données suffisantes, alors que tout autour, ça augmente, ça a vraisemblablement augmenté. Autre élément aussi, les précipitations, les fortes précipitations. Là, le GIEC indique que sur les 45 régions du monde, 19 ont vu leur fréquence et l'intensité augmenter. Et en ce qui concerne les projections sur la trajectoire à plus 3 degrés, eh bien, la fréquence, l'intensité à la fois des vagues de chaleur et des précipitations intenses vont continuer à augmenter. Autre élément préoccupant, c'est la fonte des glaciers. Les glaciers que l'on trouve ici en Antarctique ou sur la calotte groenlandaise, vous voyez, surtout à partir de 2000, on voit une accélération de la fonte de ces glaciers. On peut regarder aussi les glaciers de montagne. Et sur les glaciers de montagne, là, à partir de 1990, on voit aussi une accélération. Et puis vous voyez, là, c'est le cumul de pertes de ces glaces de montagne. Pour illustrer ceci, quelques images. Ici, sur en Alaska, deux glaciers. Vous voyez l'évolution entre 1941 et 2004. Le glacier qui a laissé place à un lac, ici à une prairie. En France, le glacier d'Argentière, la langue glaciaire qui descendait jusqu'au village et maintenant qui est remontée très haut en amont. Et puis un autre exemple, qui est ici en Géorgie, où vous voyez que là encore, la langue glaciaire a laissé place à un lac, et j'aurais pu vous montrer des photos comme ça partout dans le monde, ce qui montre que c'est vraiment un phénomène global. Et autre élément préoccupant, c'est l'élévation du niveau des mers. Alors l'élévation du niveau des mers, elle est liée à la fonte des glaces, certes, mais elle est aussi liée à ce qu'on appelle la dilatation thermique. Quand l'eau se réchauffe, on a une élévation. Donc les deux phénomènes jouent. Et ici, je vous ai indiqué les chiffres et les courbes sur les trois derniers rapports du GIEC. Pourquoi ? Parce que à chaque rapport du GIEC, on réévalue à la hausse l'élévation du niveau des mers. Si j'étais venu vous présenter ce travail il y a 14 ans, je vous aurais dit l'élévation du niveau des mers à l'horizon 2100, elle sera comprise entre 20 et 40 cm. Aujourd'hui, c'est 40 cm à 1 mètre. Là encore, le 40 cm, au vu des émissions de gaz à effet de serre, vous pouvez l'oublier. On est plutôt sur 60 cm à 1 mètre. Et puis, vous voyez, il y a une courbe ici en rouge, en pointillé, qui s'affole un peu. Ça, c'est lié à des grands glaciers en Antarctique qu'on suit de très près. Et si on a une fonte massive de ces glaciers, eh bien, ce n'est pas 1 mètre qu'il faudra prendre, mais 1,80 m d'élévation du niveau des mers. Alors, vous avez compris qu'avec l'élévation du niveau des mers, les zones côtières sont qualifiées généralement de zones de hotspot du changement climatique. Alors, il n'y a pas que l'élévation du niveau des mers. Ce qu'il faut comprendre, c'est que se combinent les tempêtes. Quand vous avez des tempêtes, vous avez une élévation du niveau des mers. C'est un phénomène de surcote. Donc, se combinent les tempêtes, l'élévation du niveau des mers, les marées. Et puis, vous avez aussi des rivières littorales. Quand il y a une tempête, il pleut. Et donc, vous avez un écoulement. Vous avez la rivière qui veut s'écouler vers la mer. Et vous avez la mer qui veut rentrer. Donc, tout ça fait que ça déborde. C'est en conflit, les deux masses d'eau. Et donc, on va forcément vers une intensification des aléas et des risques sur ces zones côtières. Ce qui veut dire une accélération du recul du trait de côte, qu'on observe déjà partout en Europe, une augmentation de la fréquence et de l'intensité des inondations, et puis également une dégradation de la qualité des eaux. Il y a une étude, le CDE, qui date un peu, mais il n'y a pas plus récent, mais qui est intéressante, puisqu'elle donne des chiffres sur les dommages aujourd'hui déjà des 136 plus grandes villes côtières, hein, les dommages liés à ces phénomènes, notamment de tempêtes et d'ouragans. Les dommages ont été estimés à 6 milliards de dollars par an. En 2050, ce sera 52 milliards par an, et si nous ne mettons pas en place des mesures d'adaptation, ce chiffre sera de 63 milliards. Pour vous illustrer ce qui se passe finalement quand on a une tempête, alors on a beaucoup parlé des Hauts-de-France récemment, donc je vous ai pris un exemple d'une tempête, alors pas la dernière, mais la tempête Éléonore de 3 janvier 2018, et vous avez représenté la côte normande et la côte des Hauts-de-France. Et vous voyez que sur la côte, on a des ronds rouges et des ronds lors de la tempête et des ronds oranges qui signifient une érosion, un recul du trait de côte. Et puis vous avez des carrés bleus qui indiquent des franchissements, donc de l'inondation. Donc vous voyez, quand on a une tempête majeure comme ceci, aucun endroit de la côte est épargné. On a soit de l'érosion, soit de l'inondation, soit les deux à la fois. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que avec l'élévation du niveau des mers, ben les tempêtes modérées qui n'entraînaient pas d'inondations, vous voyez, les inondations, l'érosion, c'est quand on a des tempêtes majeures. Mais puisqu'on a une élévation du niveau des mers, le niveau de l'eau, il est plus haut, donc ça va permettre aux tempêtes modérées de franchir les digues. Donc même si on n'augmente pas le nombre de tempêtes, ben de facto, on a une augmentation de toute façon des inondations parce qu'il y a les deux phénomènes qui se combinent. Alors je vais lancer, j'espère que ça va marcher. Ah, on n'a pas le son. Dommage. J'ai un peu mal à la gorge, je ne vais pas vous mimer le son, j'en serais bien incapable. Parce que normalement il y a un son. En réalité, c'est une. C'est mieux avec le son quand même. En réalité, ce qui est modélisé ici, ce qui est simulé, c'est. Une tempête, la tempête de 90, qui est rejouée avec un mètre d'élévation du niveau des mers dans une rue d'Étretat, en Normandie. Alors, là, c'est une vidéo. Ce qui est intéressant, c'est d'aller dans le laboratoire CIREV de réalité virtuelle, parce que dans le laboratoire de réalité virtuelle, vous êtes dans une salle à peu près grande comme ceci, avec un casque, et vous vivez l'inondation. C'est-à-dire que vous voyez la vague arriver sur vous, et vous voyez même l'eau vous passer entre les jambes, et c'est très très réaliste. Donc c'est un outil vraiment très pédagogique, et je ne vous cache pas qu'en Normandie, il y a un GIEC normand, dont je suis le président, ben on a emmené les élus dans la salle de réalité virtuelle, les élus des zones côtières, pour leur montrer ce qui se passe, et ce qui se passera si nous ne faisons rien. Et c'est les vitesses qui sont calculées ici, hein, sont de 1,5 à 2 mètres secondes. Avec à cette vitesse-là, si vous êtes dans la rue, vous êtes emmené. Autre élément aussi, là encore dans ma région, mais d'autres régions sont touchées aussi par ces phénomènes-là, c'est sur les zones estuariennes des fleuves. On a aussi ce que je viens d'expliquer pour les zones côtières est valable aussi pour ces zones estuariennes. C'est-à-dire qu'on a des phénomènes, il y a la marée et l'élévation du niveau des mers qui remonte dans les estuaires, et on a l'eau du fleuve qui s'écoule dans l'autre sens. Et ces phénomènes vont être de plus en plus fréquents, et comme pour les tempêtes, même si vous n'avez pas plus de crues, vous aurez plus d'inondations à cause de ce phénomène-là. Et puis, surtout ici, c'est la boucle de Rouen, de la Seine à Rouen, et vous voyez sur ma représentation, vous avez des petits points rouges. Ces points rouges là, c'est les sites Céveso. Vous avez sans doute entendu parler de l'accident Lubrizol à Rouen, et Lubrizol, c'est un de ces points là, c'est-à-dire qu'il sera inondé régulièrement, et ça c'est valable sur le Rhône. Même si là il n'y a pas l'effet de la marée, quasiment pas, à part l'embouchure. Et là sur la Seine, c'est valable de Rouen jusqu'au Havre, et c'est une région où il y a le plus de sites, quasiment de sites Céveso en France. Donc ces sites seront régulièrement inondés, ce qui veut dire que ce qu'il faut comprendre, c'est que le changement climatique va être ce qu'on appelle un accélérateur du multirisque. On va avoir des risques combinés en effet cascade, avec Donc, une inondation qui entraîne une augmentation des risques industriels. Si vous avez des risques industriels, ben, potentiellement, vous avez des risques sanitaires. Vous avez aussi un risque économique. Que fait-on de toute l'économie de cette axe Seine, en plus qui est très axée pétrole, hein. Et puis, des risques, bien évidemment, sociétaux. Ici, c'est un autre exemple. Toujours sur la métropole de Rouen, et vous voyez les points sont les postes sources électriques. Et tous ceux en rouge sont ceux qui seront inondés. Donc ça veut dire qu'il y aura des périodes, lors des inondations, de blackout électrique dans ces zones-là. Alors il y a tout un travail qu'on mène pour voir avec Enedis quels sont les secteurs qui sont touchés et est-ce que dans ces secteurs touchés, il y a des établissements sensibles, hein, de santé, casernes de pompiers, etc., etc. Alors, des impacts aussi sur la santé, on peut les résumer de cette façon. On a parlé d'inondations. Malheureusement, quand vous avez des inondations, on l'a vu encore récemment, vous avez des impacts physiques, vous perdez les biens, mais vous avez des impacts physiques sur les personnes. Température, canicule, là aussi, vous avez une surmortalité. Si on prend l'exemple de ce qu'on prend souvent, la canicule de 2003, la canicule de 2003, c'est 15 000 décès en France. Santé publique France a produit aussi des chiffres entre 2014 et 2022. C'est 33 000 décès liés à ces phénomènes de vagues de chaleur. Et puis, ça ajoute à ça des maladies cutanées et oculaires. Et dans les projections de l'ARS, on va vers une augmentation, notamment des cancers cutanés chez les sujets de plus de 65 ans. Également, on envisage une augmentation des maladies infectieuses. Pourquoi ? Parce que vous avez des insectes, comme ce charmant moustique tigre, qui ne devrait pas être là. Et on a vu depuis des décennies qu'il s'est déplacé, on l'a en Île-de-France maintenant, alors qu'il y a quelques décennies, il n'était qu'au sud de la France. Et ces insectes peuvent propager des maladies infectieuses telles que le chikungunya, la dengue. La pollution atmosphérique. Alors vous allez me dire, la pollution atmosphérique, ce n'est pas le changement climatique. Effectivement, c'est lié à nos rejets. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le changement climatique exacerbe les problèmes de pollution atmosphérique, puisque vous avez des problèmes de pollution quand on est en phénomène anticyclonique froid ou chaud, hein, qu'il y a peu d'air qui circule. Et je viens de vous dire que les vagues de chaleur vont augmenter, donc ça va exacerber ces problèmes de pollution. Et puis, dernier élément, c'est qu'on s'aperçoit, tout comme les insectes, on a des plantes invasives qu'on ne devrait pas avoir sur notre territoire et qui produisent des pollens. Et donc, on estime, les collègues en santé estiment que les maladies de type allergie vont s'amplifier. Alors, ici, pour schématiser le risque sur la santé humaine, un graphique qui est souvent repris là, des derniers travaux du GIEC, c'est qui représente le nombre de jours par an où la population est exposée à un risque de mortalité en lien avec la température et l'humidité. Ce qu'on va regarder, ici au centre, puisque c'est la trajectoire actuelle sur laquelle on est en termes de réchauffement, vous voyez que sur ma carte, il y a des zones, notamment sur les zones équatoriales et tropicales, on a du violet qui apparaît. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que pour ces populations, dans ces zones, ils seront exposés 250 jours par an à un risque de mortalité. Là encore, hein, si on reste sur la même trajectoire, à 3 degrés. Hein. Vous avez parlé de biodiversité. La biodiversité, l'effondrement de la biodiversité, ce n'est pas lié qu'au changement climatique. Hein. Bien évidemment, c'est lié à la réduction des habitats, c'est lié aux pollutions. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le changement climatique pourrait devenir la première cause, à la fin du siècle, de cette perte de biodiversité. Ce qu'on estime actuellement, c'est que sur les 8 millions d'espèces animales et végétales qui sont présentes sur Terre, vous avez 1 million d'espèces qui sont désormais menacées d'extinction. Pour la biodiversité, aussi une représentation ici uniquement des espèces animales qui sont exposées à des conditions de danger liées uniquement avec la température. On va faire le même exercice, on va se positionner à 3 degrés et Là aussi, vous voyez sur les mêmes zones, hein, équatoriales, tropicales, vous avez du violet qui apparaît. Et le violet ici, c'est 80% des espèces animales ici sont en condition de danger, avec une trajectoire de plus 3 degrés. Un exemple, en France, j'aurais pu en prendre d'autres. Ici, c'est le hêtre, mais c'est très parlant. Hein. Les forêts de hêtre, vous avez la représentation actuelle, avec les probabilités de présence ici, et vous voyez qu'à l'horizon 2100, tout à part le nord, ici, tout l'ouest, il n'y a plus de hêtre. Et là où vous êtes en bleu, c'est des probabilités de présence au maximum de 30%. Donc quand on réfléchit à replanter des arbres, voilà, attention à quelle essence d'arbre on replante. Un exemple aussi sur la production agricole. Alors ici, ce qui est représenté, quand c'est tout rouge, ça veut dire qu'on a des impacts que négatifs. Quand c'est rouge et vert, on peut avoir dans certaines régions à la fois du positif et du négatif. Ce qui est indiqué ici, globalement, c'est que les productions agricoles vont chuter. Tout ce qui est pêche va chuter. Et je vous ai représenté ici la production de maïs. Et là encore, si on se positionne, c'est un peu haut, mais sur cette trajectoire-là, vous voyez, quand vous êtes en rose, c'est que la production diminue. Quand vous êtes en vert, c'est que la production augmente. Vous voyez que dans certains endroits, elle peut augmenter, mais globalement, la production va fortement diminuer dans de nombreuses régions du monde. Alors, une fois qu'on a dit ça, que fait-on ? Il reste très peu de temps pour agir. Je vous ai dit, pour l'instant, on n'est pas sur une trajectoire où on limite le réchauffement à 1,5 degré. Ça a été dit tout à l'heure, les émissions de gaz à effet de serre continuent à augmenter. Pour limiter 1,5 degré, il faudrait, en 2025, inverser la trajectoire. Donc en 2025, que ça commence à baisser. Il faudrait réduire à peu près de moitié d'ici 2030 et atteindre le net zéro en 2050. Alors le net zéro, attention, pas de confusion, il y a souvent une petite confusion en disant net zéro, c'est qu'on n'émet plus de CO2, des gaz à effet de serre. C'est pas du tout ça, hein. C'est que tout ce qui est émis est compensé et recyclé. Hein. Voilà. Donc on peut continuer à émettre, mais il faut que ce soit recyclé. Alors les deux maîtres mots, c'est l'atténuation et l'adaptation. Hein. Il y a des plans et des stratégies qui sont mis en place autour de la stratégie bas carbone pour l'atténuation, le plan d'adaptation au changement climatique. Il faut que les deux soient vus de concert. On a tendance des fois à trop les regarder de façon séparée. Bah, vous allez comprendre, c'est assez logique. Hein. On veut atténuer les effets du changement climatique en réduisant nos émissions de gaz à effet de serre. Pourquoi ? Pour s'adapter au mieux. Moins on atténue, plus l'adaptation sera difficile. Donc les deux sont vraiment liés. Hein. Et il faut vraiment beaucoup avancer sur l'adaptation. On est en retard hein, sur l'adaptation. Alors, en termes d'empreinte carbone, limitée à 2 degrés, même pas à 1 degré, il faudrait que sur cette planète, chaque être humain ait une empreinte carbone de 2 tonnes par an, équivalent CO2. L'empreinte carbone de la France en 2021, elle est de 8,9 tonnes. Donc vous imaginez les efforts à faire, il faut diviser par plus de 4. Alors je ne vais pas faire tout le document, mais comme vous l'aurez, vous pourrez regarder dans le détail. Ce qui est intéressant, ça c'est en 2021, c'est les émissions annuelles de gaz à effet de serre en France, en équivalent CO2, les émissions directes. Quand on regarde les émissions directes, c'est le transport qui présente le plus d'émissions, c'est 30%. Et puis ensuite, on a une série à peu près équivalente. L'agriculture, 19%. Le résidentiel tertiaire, 18%. L'industrie, 19%. On a tendance à penser que c'est l'industrie, le premier, mais en émissions directes, vous voyez, c'est le transport. Énergie, 10%. Les déchets, 3%. Juste, je vais m'arrêter juste ici sur le transport, parce que c'est intéressant ici de regarder. Vous voyez les véhicules particuliers ? Sur les 138 millions de tonnes, c'est quasiment la moitié, c'est 66. Donc il y a un levier important ici. Voilà. On peut regarder aussi l'agriculture. Là, sur l'agriculture, vous voyez l'élevage, on est à 39 aussi. Hein. Voilà. Là, ici, ce qui est représenté, c'est les efforts qu'il faut réaliser en termes de réduction par secteur d'activité. L'engagement de la France, c'est de diminuer de 55% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Ça veut dire une réduction de 5% par an. Alors ce qu'il faut comprendre ici, vous avez la représentation justement en équivalent CO2. En 90, vous voyez, on était à 544. Si on regarde en 2022, en 30 ans, on a diminué à peu près de 136 millions de tonnes. L'effort qu'on demande à faire en moins de 10 ans, c'est 139 millions de tonnes. Donc on demande un effort en moins de 10 ans équivalent à ce qu'on a fait en 30 ans. Ce qui est intéressant aussi ici, c'est de voir les secteurs d'activité qui ont déjà fait des efforts et d'autres un peu moins, voire pas du tout. Ben, le transport, pas du tout. Vous voyez, 90-2010, on a augmenté. Donc ça veut dire que la cible en 2030, elle est importante. Hein. Il va falloir faire un effort important. L'agriculture, vous voyez que on demande moins d'efforts à l'agriculture finalement parce que c'est plus difficile à mener actuellement. Ensuite, le bâtiment a progressé, mais vous voyez, on veut passer de 64 à 30, diminuer de moitié. L'industrie, qui est souvent montrée du doigt, a fait des efforts. Vous voyez, on est passé de 143 à 80. Mais on doit encore diminuer de moitié. L'énergie a aussi fait des efforts, mais on doit encore diminuer. Et puis ici, est indiqué les puits de carbone. Les puits de carbone, les forêts, les zones humides, qui peuvent justement capter du CO2. Et vous voyez qu'on a un sérieux problème, c'est qu'en 90, on captait 24, et aujourd'hui, on capte beaucoup moins. 13, et on voudrait atteindre 34. Donc vous comprenez bien qu'il y a de nombreux efforts à faire, avec une augmentation des investissements dans les options bas carbone et l'efficacité énergétique. On estime qu'il faut que ce soit multiplié par 5 d'ici 2050. Pour ce qui est renouvelable, là aussi en 2050, au moins 50% de production en énergie renouvelable. Ça doit s'appuyer sur des technologies innovantes, bien évidemment. On doit accélérer leur développement. Mais on a aussi ce qu'on appelle des solutions fondées sur la nature, les puits de carbone. Et malheureusement, il ne faut pas penser que les technologies innovantes feront tout. Il y a un mot qu'on peut utiliser maintenant, nous les scientifiques, alors qu'il y a encore 5 ans, on n'avait pas le droit de l'utiliser. Vous allez comprendre pourquoi, c'est sobriété. Et la sobriété, ce n'est pas uniquement sur l'énergie. Depuis 2 ans, on parle de sobriété sur les ressources en eau. C'est de la sobriété sur toutes les ressources. Un exemple autour de l'énergie. Alors l'énergie, on promeut un mix énergétique. Pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas penser que les énergies renouvelables n'ont pas d'impact sur l'environnement. Elles ont un impact sur l'environnement. Donc c'est jamais bon d'aller vers une solution. Donc il faut démultiplier les solutions. La France s'est positionnée sur le nucléaire, vous le savez, hein, d'avoir 50% d'électricité nucléaire en 2035. Elle s'est positionnée sur les renouvelables. Aujourd'hui, sur l'énergie primaire en renouvelable, on est qu'à 13%. Hein. Et on veut passer à 40% en termes d'électricité. Tout ça, bien évidemment, pour diminuer la part des énergies fossiles. Alors, quelques exemples. Hein. Il y en a bien d'autres sur le bâtiment. Hein. Vous savez que c'est une vaste question, hein, les bâtiments de l'État, les bâtiments de l'université. Et c'est un coût énorme pour rénover les bâtiments. Et donc, il faut aller vers des matériaux plus performants énergétiquement. Et pour diminuer aussi les phénomènes d'îlots de chaleur, comme à Paris ou dans certaines villes. Les mobilités, c'est la décarbonation de tous les modes de transport, dont l'automobile. C'est aussi diversifier les énergies. On s'est positionné beaucoup sur l'électrique, mais il y a aussi l'hydrogène et éventuellement d'autres sources d'énergie. Vous voyez qu'il faut alléger les véhicules, normalement. Un véhicule électrique, on ne l'allège pas. Donc voilà, il peut y avoir des contradictions. Des meilleures performances sur l'aérodynamisme, les équipements. Les équipements qui sont dans nos voitures sont très fortement consommateurs d'énergie. Et puis bien évidemment, ce qu'on appelle le report modal de la voiture vers des modes moins carbonés, le transport en commun. Mais encore faut-il qu'il soit un tarif raisonnable, accessible à tout le monde. Certaines métropoles ont mis en place de la gratuité à certains moments. La place de la nature en ville. J'insiste souvent sur ce point-là parce que pour moi, c'est un élément... Quand on met en place des mesures, une action peut être à la fois de l'atténuation et l'adaptation. Quand vous mettez de la nature en ville, vous faites de l'atténuation parce que vous captez du CO2. Quand vous mettez de la nature en ville, vous mettez des îlots de fraîcheur, donc vous faites de l'adaptation. Quand vous mettez de la nature en ville, vous désimperméabilisez les sols, ça permet que l'eau pénètre dans les sols et vous pouvez éventuellement diminuer les crues. Donc, et là aussi, c'est de l'adaptation. Donc c'est un exemple parmi d'autres.
Je vous ai parlé beaucoup de risques. Les risques, il n'y a pas 30 000 solutions. Il y a 3 solutions. Soit... Ah, C'est parce que j'ai dépassé mon temps. Et donc, j'ai deux diapos.
Pour les suivants, vous avez compris, hein. On vous coupe. Pour la partie adaptation par rapport au risque, il n'y a que trois solutions. La première, on laisse faire. Bon, vous doutez bien que les scientifiques vont pas, on préconise pas ça. Si on laisse faire, à un moment donné, de toute façon, il n'y aura plus d'assurance. Voilà. Deuxième façon de faire, c'est on relève tous nos ouvrages, on se protège. Mais vous pensez qu'on peut se protéger partout ? L'eau, elle doit entrer quelque part. Les Pays-Bas font ça. Ils ouvrent des digues, ils laissent entrer l'eau à certains endroits pour en protéger d'autres et construisent autrement. Donc au bord des fleuves, au bord de la mer, il va aller vers ça. Et il y a un élément qui n'est pas très vendeur auprès des maires et des élus. Ça s'appelle le recul stratégique, pour pas parler de relocalisation, hein, de délocalisation. Mais c'est ça, en réalité. Et pour terminer, vous avez compris, il y a encore beaucoup d'efforts à fournir. Communiquer, sensibiliser, ce qu'on fait aujourd'hui, et c'est le rôle aussi des bibliothèques, je pense. Former, parce que communiquer, sensibiliser, c'est bien, mais quand on doit prendre des mesures concrètes, encore faut-il être formé à ces enjeux-là. Tout ça, ça doit être réfléchi à différentes échelles, nationales, territoires. Ça doit vraiment être... Alors c'est ce qui est difficile, il faut mettre tous les acteurs autour de la table. Vous avez vu, il y a tous les secteurs d'activité et réfléchir de façon concertée aux mesures qu'on veut mettre en place. Et donc, et notamment à l'échelle des territoires, c'est réfléchir à ce qu'on appelle une recomposition territoriale. Hein, et donc, c'est vraiment complexe. Et puis... je presse toujours pour ma paroisse à la fin, c'est qu'on a besoin, vous comprenez, d'un socle scientifique solide. Si on n'a pas de connaissances, ben on ne sait pas vers où on va. Et puis la science peut aussi apporter des solutions. Et les scientifiques sont un acteur, hein, parmi les autres, avec qui on peut discuter pour apporter des conseils et trouver ces solutions en termes d'atténuation et d'adaptation. Je vous remercie de votre attention. Je ne sais pas si on a le temps pour quelques questions.